RFI. Mondial Sport sur RFI. Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Plus vite, plus haut, plus fort, deux athlètes au sommet dans Mondial Sport. Ce soir, Eliud Kipchoge, le Kenyan, Kevin Mayer, le Français de chasseur de records. Le premier est devenu l'homme le plus rapide du monde sur le marathon. Le second a fait tomber la marque de son idole Ashton Eaton sur le décathlon. On reviendra sur leurs exploits. À suivre aussi du football en Afrique. Quart de finale aller de la Coupe de la Confédération. Résultat, réaction dans cette émission. Dans cette émission également, une page cyclisme. Simon Yates, roi d'Espagne. Issia Cassis est sacré à la maison et le destin brisé de la pistarde allemande Christina Vogel. Coup de raquette et coup de poing enfin avec un retour sur les demi-finales de la Coupe Davis et sur le combat de l'année en boxe. Alvarez Golovkin, c'était hier à Las Vegas, ce sera ce soir dans votre poste. Allez, Mondial Sport, c'est parti.
Thank you to all the...
Merci à tous les spectateurs du premier au dernier kilomètre. Ils m'ont poussé, c'était comme avoir de la musique dans les oreilles.
Il avait de la musique dans ses oreilles, il nous en a mis plein la vue. Eliud Kipchoge a brillé, c'est le moins qu'on puisse dire, ce dimanche à Berlin. Bonsoir Hugo Moissonnier.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Le Kenyan a tout simplement, entre guillemets, pulvérisé le record du monde du marathon.
La capitale allemande, Berlin, est une terre de record. Les conditions climatiques étaient parfaites, alors Eliud Kipchoge ne s'est pas fait prier, oublier les 2h, 2 minutes et 57 secondes de son compatriote Kimeto en 2014. C'est une minute et 18 secondes de trop. Désormais, la nouvelle marque de référence, la voici, 2h, 1 minute et 39 secondes. Il le voulait, ce record, Eliud Kipchoge, 33 ans. Il avait déjà couru plus de 42 km en à peine 2h et 25 secondes l'an passé, mais dans un cadre trop spécial et des conditions trop particulières sur un circuit privatisé à Monza en Italie. Alors le chrono n'avait pas été homologué. Cette fois, il entre dans l'histoire, la très grande histoire du sport, nous dit René Auguin, le responsable du plateau élite du marathon de Paris, qui n'est pas franchement surpris par ce qu'il a vu ce matin devant sa télévision.
On savait qu'il avait le record du monde dans les jambes. Il fallait simplement les bonnes conditions météo pour réussir, quoi. Alors effectivement, il était super heureux à l'arrivée. Il courait après depuis un moment. Il l'avait raté l'an dernier à cause de la météo à Berlin avec une route humide. Donc là, il était heureux comme on ne l'avait jamais vu, quoi.
Kipchoge, c'est le plus grand marathonien de l'histoire désormais.
Le plus grand marathonien et aussi un des plus grands athlètes puisqu'il était champion du monde à Paris et sur 5000 mètres en 2003. Donc une longévité exceptionnelle. Hein. Il fait au maximum 2 compétitions par an, donc gestion de carrière exceptionnelle, quoi. Il est hors norme parce que tout est calculé au niveau de la foulée, au niveau des bras et tout. Et il a la chance de bénéficier d'un modèle de chaussures fait par son équipementier qui, a priori, favorise quand même les performances. Hein. Même si la chaussure ne fait pas tout, c'est quand même un avantage de pouvoir courir avec.
René Auguin. Et sachez que chez les femmes, le Kenya s'est également distingué ce matin à Berlin avec le succès de Gladys Cherono, déjà vainqueur l'an dernier. La star éthiopienne Tirunesh Dibaba n'a terminé que troisième.
Un autre homme, Hugo, est entré aujourd'hui dans l'histoire de l'athlétisme. Le Français Kevin Mayer, 10 travaux, 10 épreuves, 2 jours de compétition. Et à la clé, là aussi, un nouveau record du monde du décathlon, 9126 points. Mayer met une claque au score de son idole Ashton Eaton. Performance réussie à Talence, près de Bordeaux. Écoutez la réaction, l'émotion du champion du monde 2017 au micro de nos confrères de RMC Sport.
Au-delà du record, ce que j'ai remarqué ces deux jours, c'est que ça sert à rien de faire des grandes performances si tu le partages pas. Je me suis construit en tant qu'humain, en tant qu'ami, en tant que copain au travers ce sport. J'ai appris plein de valeurs et il en ressort un record du monde que j'arrive pas du tout à réaliser. J'arrive même pas à réaliser que j'étais à 8400 points avant 1500 mètres. C'est les nuages, vous les voyez. Moi, je suis au-dessus et je vois le soleil et je prends des coups de soleil même.
Voilà, Kevin Mayer dans le soleil, dans la lune, groggy après cet incroyable week-end, cette revanche aussi sur sa disqualification des derniers championnats d'Europe cet été. À Berlin, on va parler football africain maintenant, Hugo Moissonnier. La Ligue des Champions laissait place à la Coupe de la Confédération ce dimanche. Au programme là aussi, les quarts de finale aller.
Une étape bien maîtrisée par l'ASV Club de Kinshasa qui rêve probablement d'imiter le tout-puissant Mazembe, vainqueur des deux dernières éditions. L'ASV Club et qui s'impose à domicile 3-1 devant les Marocains de la Renaissance de Berkane. Alors tout n'a pas été simple pour les hommes de Florent Ibengué pour autant. Ce sont leurs adversaires qui ont ouvert la marque au cœur de la première période. Makoussou a égalisé avant la pause, puis il a signé un doublé juste avant l'heure de jeu, le troisième but. Il est l'œuvre de Chabani. Des Congolais à réaction donc ce dimanche, ce que n'a pas apprécié leur coach Florent Ibengué, qui a notamment poussé une petite gueulante, entre guillemets, dans les vestiaires à la mi-temps.
On a recadré les choses à la mi-temps parce qu'on ne jouait pas. On ne jouait pas notre jeu habituel. On dirait qu'on craignait ce match-là. Donc il a fallu reconforter, crier pour remettre un petit peu tout le monde dans le droit chemin. Donc voilà, une mi-temps gâchée, la première. La seconde qui a été mieux, mais bon, on a encaissé un but et ça c'est gênant.
3-1, c'est une avance assez confortable quand même.
Oui, il faudra qu'on soit costaud et qu'on aille marquer là-bas. On a montré qu'on pouvait marquer chez nous. Il faut qu'on aille là-bas avec la même ambition. Mais aujourd'hui aussi, on a vu qu'on avait la possibilité de marquer plus. Mais il y a aussi un homme qui nous a empêché de marquer plus.
Florent Ibengué avec Kaboulou Mona Kaboulou.
Mauvais dimanche en revanche pour d'autres Congolais. Ceux du Kara de Brazzaville.
Oui, les joueurs du Kara de Brazzaville, pardon, qui ont été battus à la maison par d'autres Marocains, ceux du Raja Casablanca, score final 2-1. Kivutuka leur avait pourtant permis d'espérer mieux à ces joueurs de Brazzaville en égalisant à environ 20 minutes de la fin, mais un deuxième but encaissé un peu plus tard les condamne désormais à réaliser un exploit dans une semaine au Maroc. Le milieu de terrain congolais Doua Stanislas Ankira analyse la rencontre de ce dimanche et il se projette sur la prochaine.
On a manqué d'agressivité, on a été un peu laxiste et on a joué un jeu que l'adversaire dès le début a su et a bien géré. Nous on tombe à domicile, c'est au niveau des quarts de finale, donc les équipes sont à ce niveau, sont tous joueuses. La manche retour est encore là, nous allons nous battre comme des lions pour essayer de faire mieux que ce que nous avons fait ici à domicile. Oui, l'adversaire est de taille, hein, l'adversaire est de niveau. Nous devons également affûter ceux qui sont nos forces pour que nous fassions mouche là-bas à Casa, parce que c'est pas impossible.
Voilà, le joueur du Kara, Doua Stanislas Ankira. Sachez également que les Rwandais de Rayon Sport doivent se contenter d'un match nul et vierge face aux Nigérians d'Enimba. Les Égyptiens d'Almasri, enfin, ont battu les Algériens de l'USM Alger à Port Saïd 1-0. Les matchs retour auront lieu dans une semaine.
Un mot sur la Ligue des Champions, Hugo, et le match du tout-puissant Mazembe sur le terrain de Primeiro de Agosso, c'était hier.
Oui, une rencontre endeuillée à Luanda. D'après nos informations, 11 personnes ont trouvé la mort à la suite d'une bousculade après la rencontre, au moment où les spectateurs ont quitté le stade et une enquête aurait été ouverte par les autorités.
Merci Hugo. Le foot en Europe, maintenant Ligue des Champions oblige, ce sera à partir de mardi la Ligue des Champions, ce sera d'ailleurs sur RFI. Le programme des différents championnats était plus léger ce dimanche, à signaler quand même en France l'épilogue de la 5e journée de Ligue 1, la victoire de Marseille sur Guingamp 4-0. Les Olympiens, deuxième du championnat de France ce soir, à 5 points du PSG. Bordeaux et Nîmes ont fait match nul 3 partout, 0-0 entre Nantes et Reims. Et puis en Italie, Cristiano Ronaldo est enfin baptisé les filets de la Serie A. Le nouveau joueur de la Juventus Turin s'est offert ses deux premiers buts en noir et blanc, deux buts très importants. Ils permettent à la vieille dame de dominer Sassuolo 2-1 et de conforter sa première place. C'est le Sénégalais Babacar qui a marqué pour les visiteurs. Voilà, c'est tout pour le foot ce soir. On passe au basket de nouveau avec vous, Hugo. Le basket en Afrique, précisément, le continent qui a fourni les deux premiers qualifiés pour le Mondial 2019.
Et c'est plutôt logique. Il s'agit des deux finalistes du dernier Afrobasket. Ils ont validé leur billet hier, chacun chez soi, chacun devant son public. Le champion d'Afrique, la Tunisie, s'est qualifiée dans le cadre d'un tournoi qui s'est déroulé ce week-end à Rades, près de Tunis. Le Nigeria, lui, de son côté, était à Lagos, où il a signé une nouvelle victoire ce dimanche, la 9e en autant de rencontres dans ses éliminatoires. Une victoire face à son principal rival dans son groupe, le Sénégal. Le score 89-61, c'est assez net. Champion d'Afrique en 2015 pour la première fois, finaliste surprise de l'Afrobasket 2 ans plus tard à Tunis avec Diogou, on s'en souvient. Le Nigeria va participer à son 3e mondial et forcément, ça fait plaisir au président de la Fédération nigériane de football, le francophone Moussa Kouda.
Je suis humble, mais quand même, ce qu'on a fait, Ça fait une année seulement, comme durée donc de la fédération. Je crois qu'on a fait beaucoup quand même. C'est pas juste de se qualifier en tant que première officiellement pour le FIBA World Cup, mais il faut regarder côté femmes aussi. Les femmes, l'équipe femme du Nigeria est déjà en route pour aller en Espagne. Donc pour nous, c'est une bonne année. On a eu un double trophée, je peux dire. Femmes, hommes, on est présents au stade du monde.
Alors, comment qualifiez-vous ces belles performances de vos athlètes?
Non, mais attendez là. Au Nigeria, on a 200 millions d'habitants. Donc, pour moi, je suis convaincu, et ça se montre justement sur le terrain, qu'on peut choisir, on peut avoir 12 personnes quand même de ces 200 millions d'habitants pour bien faire ce qu'on vient de voir là. Et puis, je pense qu'il en a même meilleur, on peut avoir une meilleure équipe d'ici, quoi. Donc, voilà, on a commencé et je crois qu'on va aller encore plus loin.
Pour le mondial hommes et dames, vos ambitions?
Chaque fois, quand on se qualifiait, le plus qu'on a pu faire pour les femmes, c'était donc de battre, d'avoir un match gagné dans cette Coupe du Monde pour les femmes. Pour nous, on va essayer donc de se qualifier pour le prochain rond. C'est-à-dire pour le quart de finale donc dans cette tournoi. Pour les hommes, ça va être un peu différent. Pour nous, on est en train de regarder encore pour essayer de consolider l'équipe qu'on peut avoir. Je crois qu'on va aller loin. Je ne sais pas comment, mais on va aller loin.
Voyez-vous donc les Tigres remporter la Coupe du Monde? Parce que je sais que Hakim Olajuwon, ce soir, il est content.
Ah, il doit être content. Il a joué pour l'Amérique à une époque, mais il est Nigérian. Et on voit très bien son esprit sur le terrain.
Vous allez en février terminer une finale, vous êtes déjà qualifié. Allez-vous apporter des joueurs locaux ou toujours les joueurs internationaux nigériens?
Si on a de la chance, on va voir quelques locaux dedans, c'est vrai. Parce que bon, ça va être difficile aussi la fenêtre de février l'année prochaine pour tout le monde. Donc on va en profiter justement pour essayer d'infuser un peu quelques locaux.
Moussa Kida, président de la Fédération Nigériane de Basketball, et non pas de football. Ma langue a fourché. Entretien réalisé, vous l'aurez peut-être reconnu, par Bright Abiola, notre correspondant
l'unique
au Nigeria, l'unique Bright Abiola, qui parle d'une dernière fenêtre, un dernier tournoi de qualification, effectivement, qui aura lieu dans quelques mois, début 2019, dans ce groupe F, celui du Nigeria et du Sénégal, battu donc, mais le Sénégal reste deuxième devant la Centrafrique, qui a battu le Rwanda tout à l'heure. La Côte d'Ivoire et le Mali en font également partie. Elles s'affrontaient tout à l'heure. Victoire de la Côte d'Ivoire dans l'autre poule. La Tunisie qualifiée, donc la Tunisie qui a battu son principal rival, l'Angola, tout à l'heure. L'Angola deuxième, derrière suit l'Égypte qui a battu le Cameroun. Le Cameroun quatrième, le Tchad est cinquième et reste, peut toujours espérer en tout cas, le Tchad qui a battu le Maroc, dernier de la poule. Cinq équipes africaines en tout iront en Chine pour participer au mondial, les deux premiers de ces deux poules de qualification ainsi que le meilleur troisième.
Mondial Sport sur RFI.
On ouvre une page cyclisme à présent, Hugo. Retour d'abord sur une semaine de vélo en Côte d'Ivoire.
Elle s'est refermée aujourd'hui avec le Grand Prix cycliste d'Abidjan auquel ont participé les coureurs qui la veille venaient d'achever le 25e tour de Côte d'Ivoire. Alors le vainqueur n'est pas le même puisque le Burkina a pris une petite revanche ce dimanche. Sinon, sur le bord de la route, l'heure était au bilan, celui du tour de Côte d'Ivoire, et c'est Youen Gourlet qui s'en est chargé.
L'épreuve se déroule en 20 tours et dès le 5e, un petit groupe de coureurs se détache. Ils sont rapidement 4 en tête, dont 2 Ivoiriens, et les nombreux supporters sur les trottoirs font leurs pronostics. Dans le tour final, 2 coureurs s'en vont, Issiaka Cissé, vainqueur du Tour de Côte d'Ivoire cette semaine, et le Burkinabé Aziz Nikiema. Dans la dernière montée, le capitaine des étalons du Burkina Faso est le plus costaud, peu enclin à prendre des relais durant la course s'il l'emporte dans une petite pièce.
Vraiment, c'est une étape que je tenais à cœur de le gagner parce que aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon papa, donc je l'ai promis la victoire. Je sais aussi que j'ai pas trop travaillé, mais c'est normal, c'est la course. On ne peut pas toujours être à fond, il faut avoir des objectifs.
Pas de regret pour Issiaka Cissé sur ce Grand Prix. Le plus important, c'était le tour. L'Ivoirien a réalisé une semaine presque parfaite, 3 victoires d'étape et le classement général.
on a réussi à garder le maillot jusqu'à la fin, donc on est déjà très content de tout ça, et surtout pour la nation ivoirienne, c'est très important, c'est le tour ivoirien de la paix. Si on la remporte, c'est vraiment bien pour nous.
Pour l'entraîneur du Burkina, le bilan est très correct, une victoire sur le tour et sur le Grand Prix, mais il regrette les problèmes de logistique et d'organisation.
Le parcours, des fois, bon, il ne respectait pas les distances prévues, qui fait que bon, on ne pouvait pas faire notre course. Parce qu'une course qui est programmée pour 120, on se retrouve avec 60 ou 70 km. On ne peut pas pédaler pour pouvoir avec le maillot, donc c'est un peu différent.
Parcours réduit, 60 coureurs au départ au lieu de 90, peu de nationalités représentées, un seul sponsor et un soutien de l'État trop limité. Alain Kwame Jean-Marie, président de la fédération, est un peu déçu.
Le bitume était déformé à certains endroits, de sorte que nous avons dû donc réduire quelquefois la distance ou modifier carrément le parcours. Bon, on l'a fait vraiment, je dirais, à contre-cœur, mais on n'a pas le choix. Il faut qu'on nous aide, n'est-ce pas, à lancer le tour. On a vu un peu avec le tour du Rwanda, qui initialement était financé, je dirais, à 100% par l'État du Rwanda. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il est financé à 30% par l'État. Le reste provient des sponsors, des privés. Et donc c'est à ça que nous voulons arriver.
Le ministre des Sports, Paulin Danot, reconnaît qu'il pourrait y avoir des améliorations, mais à une seule condition.
Nous souhaitons qu'à partir de maintenant, il y ait beaucoup d'anticipation dans tout ce que nous allons faire pour que l'État de Côte d'Ivoire, qui tient à ce que le sport prenne sa place dans la cohésion sociale et dans la réconciliation, puisse jouer toute sa partition.
L'État promet une augmentation du budget l'année prochaine. Pour un tour réussi, il faudrait 300 millions de francs CFA selon les organisateurs, soit 4 fois plus que cette année. À Abidjan, Yoann Gourlet, RFI.
En cyclisme, toujours le nouveau roi d'Espagne et britannique après une dernière étape remportée au sprint à Madrid par l'italien Viviani. Simon Yates s'est adjugé la 73e édition de la Vuelta. Les grands tours décidément archi dominés cette saison par les coureurs de Sa Majesté. Chris Froome avait remporté le Giro. Geraint Thomas le Tour de France et donc Yates la Vuelta. Trois coureurs différents d'une même nation sacrés la même année. C'est une première dans l'histoire du cyclisme. Les Français, eux, se consoleront largement avec 5 victoires d'étape, dont 2 pour Thibaut Pinot, finalement 6e du général. Elle régnait sur les vélodromes. Christina Vogel, 28 ans, 2 médailles d'or olympiques, 11 titres mondiaux, une carrière de patronne de la piste brisée au mois de juin dernier. Un accident tragique à l'entraînement, plusieurs semaines de coma et puis le choc. L'Allemande apprend qu'elle restera paraplégique, qu'elle ne pourra plus jamais marcher. Et pourtant, c'est avec le sourire que Christina Vogel s'est présentée devant les médias quelques jours après sa sortie de l'hôpital, une attitude qui a ému dans son pays, à Berlin. Le reportage de Julien Méchaussier.
Jeux olympiques de Rio, il y a 2 ans, au bout d'une course au suspense incroyable, Christina Vogel remporte sa 2e médaille d'or après celle obtenue en équipe à Londres. Avec l'Australienne Anna Mears, elle fait partie des athlètes les plus titrés du cyclisme sur piste. Et depuis son terrible accident, c'est tout le monde sportif allemand qui s'est mobilisé, avec notamment ce hashtag repris sur les réseaux sociaux, Stay Strong, Christina, reste forte, Christina. Et depuis sa sortie de l'hôpital, il y a quelques jours, la cycliste martèle le même message, la vie continue. Comme lors de cette interview accordée à la grande émission sportive de la télévision publique allemande.
Durant toute ma carrière, je n'ai jamais voulu qu'une autre personne décide de mon destin. Je veux rester indépendante, reprendre le contrôle de mon corps, apprendre à vivre en chaise roulante. Je veux pouvoir décider si j'ai besoin d'aide ou non, si je dois me battre toute seule. J'ai toujours été comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Je veux me battre, profiter de la vie, sortir avec mes amis, rigoler, sans m'apitoyer sur mon sort et penser tout le temps « Oh mon Dieu, c'est horrible, je suis dans une chaise roulante ».
Si cette réaction a suscité l'admiration du grand public, elle n'a pas surpris Vincent Rödl, expert allemand en psychologie du sport.
Dès leur tout début, quand ils commencent la compétition tout petit, les sportifs sont confrontés à la défaite, aux déceptions, aux erreurs qu'ils peuvent commettre. Tomber et se relever fait partie de leur ADN. C'est un entraînement qui débute très tôt et qui permet aux sportifs de haut niveau de développer une incroyable force mentale, une force grâce à laquelle ils peuvent aussi surpasser des événements tragiques.
Et Vincent Rödl a déjà été confronté à un tel destin.
J'ai travaillé avec un athlète africain, originaire de l'Ouganda. Après avoir marché sur une mine, il a perdu ses 2 jambes. Mais il ne s'est pas laissé abattre et est devenu entraîneur de basketball en chaise roulante. Au cours de notre travail, il a fait preuve d'une incroyable volonté et envie de vivre. L'histoire et la réaction de Christina Vogel m'ont beaucoup rappelé celle de cet entraîneur. Le message envoyé par Christina est « Je suis de retour, la vie continue et je vais en profiter du mieux possible ».
Profiter de la vie avant peut-être de reprendre la compétition.
Depuis l'accident, la pratique du sport me manque énormément. J'en ai besoin, c'est vital pour moi. Est-ce que j'irai jusqu'aux Jeux paralympiques? Je ne sais pas, mais je continuerai à faire du sport, soyez-en sûrs. Durant ma convalescence, quand je ne pouvais pas me lever, j'ai cru devenir folle. J'ai besoin du sport, mais c'est trop tôt pour parler d'une nouvelle carrière. Je dois d'abord redécouvrir mon corps, me retrouver pour savoir ce dont je suis capable.
De quoi faire espérer les fans avant peut-être de revoir un jour Christina Vogel se lancer dans une discipline handisport. Julien Méchossi, Berlin RFI.
France-Croatie, la revanche, mais au tennis, ce sera fin novembre l'affiche de la finale de la Coupe Davis. Aujourd'hui, les Croates ont dominé au forceps les Américains, 3-2. Pendant ce temps-là, Richard Gasquet et Nicolas Mahut perdaient les deux matchs pour l'honneur disputés aujourd'hui face aux Espagnols. Rien de grave, puisque la qualification était acquise depuis hier. Éric Mabrut, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Vous étiez, Eric, ce week-end au stade Pierre-Mauroy de Lille. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que eh bien, cette bande, la bande Anoa, peut savourer sa deuxième finale consécutive.
Oui, elle la savoure et elle a fait la fête d'ailleurs un petit peu toute la nuit. Il faut dire que cela faisait 16 ans que l'équipe de France n'avait pas enchaîné deux finales de Coupe Davis. En 2001, elle s'était imposée en Australie avant de perdre cruellement à Paris l'année suivante contre la Russie. Cette fois, elle va tenter de réussir le doublé, une passe de deux inédite depuis 1932 et la grande époque des mousquetaires. Un nouveau succès tricolore fin novembre serait donc historique et ce d'autant plus que la France deviendrait le dernier vainqueur de cette Coupe Davis dans son format actuel, vous le savez. L'an prochain, cette compétition vieille de 118 ans va changer de formule, supprimant la quasi-totalité des matchs à domicile, une seule phase finale se déroulant à la fin de la saison sur terrain neutre. On n'oublie pas que cette dernière finale, fin novembre, se jouera en France. Bref, vous comprendrez aisément que cette qualification fait donc particulièrement plaisir aux Bleus, et notamment au capitaine Yannick Noah.
Cette aventure nous tient à cœur. On sait que cette année, c'est une année particulière. On est tellement heureux de pouvoir être en finale cette année, défendre notre titre en finale, ici. C'est formidable de pouvoir avoir cette opportunité historique. On sait ce qui se passe, on connaît l'histoire de la Coupe Davis. On sait que là, on est en train de vivre des moments précieux. Ouais, sur la dernière photo, on sera dessus déjà. Alors si c'est avec la Coupe, ça le fera carrément.
Yannick Noah qui a utilisé pas moins de 8 joueurs cette année durant les 3 rencontres, 11 depuis 2016 et le début de son capitanat. On le sait, ce réservoir conséquent est l'une des grandes forces de l'équipe de France. Il n'empêche, le choix sera cornélien au moment de choisir les 5 sélectionnés pour la finale. Mais Yannick Noah a déjà son idée pour faire le tri.
Ouais, il va y avoir pas mal de gars qui voudront gagner leur place. Et là, ils connaissent tous mon compte en banque. Je peux faire des cadeaux en cash. Je prends. Je suis très sérieux.
Yannick Noah, sérieux ou presque, il pourra en tout cas compter sur Joe Wilfried Tsonga, blessé depuis plusieurs mois et qui fait son retour cette semaine à Metz. Pierre Hugerbert, forfait ce week-end à Lille, sera lui aussi normalement rétabli. Seul en fait Gaël Monfils, avec le courant n'est finalement pas passé avec Noah, ne devrait pas postuler à cette finale.
Finale qui se jouera, vous le disiez, en France face à la Croatie.
Ce sera la troisième finale pour la Croatie après son sacre de 2005 et sa finale perdue en 2016 face à l'Argentine. Cette même année, Marin Cilic avait éliminé à lui tout seul l'équipe de France en demi-finale. C'était à Zadar. Lucas Pouille était déjà là. Il s'est donc retrouvé les Croates fin novembre. Ne sera pas une sinécure. Lucas Pouille.
On a perdu contre eux déjà il y a 2 ans maintenant. Cilic, il fait partie des tout meilleurs joueurs du monde. Koric est dans les 20, il me semble. Ils ont Dodig en double. Ils ont Pavic qui était numéro 1 ou qui est numéro 1 en double. Donc ils ont une équipe qui est sur le papier qui est favori. Donc on les sous-estime pas du tout. Au contraire, on les respecte et on a juste hâte d'y être et essayer de leur apporter un titre back-to-back. Le fait déjà que ce soit à la maison, ça va être une super fête et on va pouvoir profiter au maximum avec le public, avec tous nos proches, tous nos amis et essayer de faire de ce week-end le plus beau week-end de notre vie.
Reste à trouver le lieu de cette rencontre et choisir la surface. Lille tient la corde pour l'instant, mais rien n'est encore décidé. C'est ce qu'ont déclaré les Bleus et leur capitaine.
Merci Eric, ça promet une belle bagarre ce France-Croatie, de la castagne aussi sur le ring, c'était la nuit dernière à Las Vegas, le combat de boxe le plus attendu de l'année en jeu, les ceintures WBA et WBC des poids moyens, à ma gauche le Mexicain Saúl Canelo Alvarez, à ma droite le Kazakh Gennady Golovkin, invaincu en 39 combats, mais GGG, c'est son surnom, est tombé hier, victoire au point d'Alvarez, un an après un nul très controversé déjà entre ces deux garçon à Las Vegas, le reportage de Loïc Piala.
Jour de fête, un de plus à Las Vegas, devant la T-Mobile Arena, la bière coule à flot et on se prend en photo sur le ring avec de belles hôtesses.
Estoy dormido.
C'est l'espagnol qui résonne sur l'esplanade parce que Saúl Canelo Alvarez est le héros de Guadalajara et parce que Gennady Golovkin, l'enfant de Karaganda au Kazakhstan, a été adopté par la communauté latino fan de sa boxe spectaculaire, la preuve avec Antonio.
Il a un style différent de Canelo. Canelo est bon mais Golovkin est meilleur.
Proximité oblige, les drapeaux mexicains l'emportent par chaos sur les drapeaux du Kazakhstan. D'ailleurs, Francisco et Rosa sont d'humeur patriotique.
Oui, on a confiance en Canelo, il s'est bien préparé. Triple G est un bon boxeur, mais Canelo est plus fort.
C'est le jour de l'indépendance du Mexique, il faut qu'il gagne Canelo.
Alors l'entrée de Saúl Alvarez est de circonstance. Il débarque sur le classique Mexico Lindo y Querido, poncho sur le dos et dans une fumée aux couleurs vertes, blanches et rouges, celle de son drapeau. Le public a choisi son camp. Pour beaucoup, Alvarez avait perdu le premier combat en 2017 et puis il a été suspendu pour dopage en début d'année, mais sa popularité n'a pas souffert. Et puis ce qu'attendent LeBron James, Denzel Washington et les 20 000 autres spectateurs commencent enfin. Le premier combat s'était terminé sur un nul controversé. Les deux hommes ont promis que cette fois, l'un d'entre eux finira au tapis. Le clan Golovkin a accusé Canelo d'avoir couru lors du premier combat. Cette fois, le Mexicain ne bouge pas du centre du ring. C'est le Kazakh qui recule, contrairement à ses habitudes de bulldozer. Triple G a mis 34 boxeurs KO dans sa carrière, mais le menton d'Alvarez résiste à tout, les coups s'enchaînent, les rounds aussi. Les deux poids moyens ont l'arcade ouverte, mais personne n'est à terre, le KO annoncé n'a pas eu lieu. C'est Canelo qui l'emporte, au point.
Cette victoire est très importante pour moi, pour ma carrière, pour mon pays. C'est très important. Je suis heureux parce que cela va donner beaucoup de fierté à mon pays et pour ma place dans l'histoire de la boxe. C'est aussi quelque chose d'incroyable. Nous sommes très contents.
Golovkin ne s'attarde pas sur le ring. Quand il revient dans la salle, une heure et demie plus tard, il ne reste que les journalistes. Il se cache derrière ses lunettes de soleil et son traducteur. Il n'est pas d'accord avec les juges, mais il accepte la première défaite de sa carrière.
Merci pour tout. Sérieusement, c'était un grand combat. Bravo à Canelo et son équipe. Il est le champion aujourd'hui. Je reviendrai, les gars. Je reviendrai.
Et pourquoi pas revenir pour un troisième duel avec Canelo. Loïc Piala, Las Vegas RFI.
Voilà, c'est bientôt l'heure de se quitter. Je vous donne quand même les deux résultats rugby du jour en top 14. La nouvelle défaite de Toulon sur la pelouse du Stade France, c'est 37-10. Victoire sur le même score de La Rochelle aux dépens de Perpignan. Au classement, après 4 journées, Clermont mène devant le Stade Français et Castres. Toulon, Grenoble et Perpignan ferment la marche. Et puis les amateurs de boules auront sans doute remarqué cette absence. L'absence de l'équipe du Bénin aux Mondiaux disputés en ce moment au Canada. Les vice-champions du monde en titre, c'est l'explication ce soir. Bloqué par des problèmes de visa, on essaiera de vous en dire plus très vite aussi. Je remercie Valentin Vaner et Laurent Philippot, les maîtres du chrono. Restez à l'écoute de RFI. Bonne soirée, bye bye.